Ah non, mais tu regardes autre chose. Sur la. Si tu lances la petite vidéo qu'avait préparé le sel, si tu le mets en plein écran, ça va se lancer tout seul. Faut cliquer sur plein écran. Il faut cliquer sur diaporama en fait. Hop. Mais en fait, il faut cliquer là sur diaporama avant. Voilà, là c'est bien. Échappe. Après, tu pourras prendre la main.
Travailler, c'est contribuer, construire, subvenir. Mais c'est aussi souffrir, s'épuiser, combattre et s'exploiter. Alors, que penser en tant que chrétien de cette réalité si contrastée? Notre travail, quel qu'il soit, peut-il être un moyen de servir Dieu et de servir les autres? Et si le travail était une clé pour faire reculer la pauvreté? Cette année, à l'occasion de la journée du fer, prenons le temps de prier, de réfléchir et d'échanger autour de ces questions afin de changer notre regard sur le travail et le bénéfice de notre prochain le plus pauvre.
C'est donc le thème qui a été choisi. Et je suis d'autant plus libre que je n'ai plus qu'à prier le Saint-Esprit qu'il vous parle, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit cette prédication, mais c'est Cédric Eugène qui est doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine. Et, mais je ne sais pas pourquoi, je sais qu'un certain nombre de personnes, et moi ça m'a fait du bien d'entendre ce qu'il avait dit. C'est un bon message, comme dirait le pasteur Philippe, pour l'église d'Aubagne que nous avons ce matin. Je vais demander à mon frère Destin si tu veux prier pour, quand même pour moi et que le Seigneur nous parle. Amen. Et si je commençais par une question toute simple, comment s'est passée votre semaine? Pour beaucoup d'entre vous, la réponse toucherait de près ou de loin au travail. L'urgence d'un dossier, pour ceux qui sont à l'école, le stress des examens, la fatigue accumulée, je pense, j'ai travaillé cette semaine de prendre le bus, d'attendre, de louper son bus, de courir après. Une parole blessante d'un collègue. Mais peut-être aussi la joie d'avoir aidé quelqu'un dans son travail, un collègue, un résident, d'avoir accompli quelque chose de bon. Et puis il y aurait peut-être aussi le silence, et il y en a ici de pesant de celui qui est sans emploi, qui cherche un emploi, ou qui porte le poids d'un travail qui lui est devenu trop lourd. Si vous saviez le nombre de gens qui tombent en situation, on parle maintenant de burn-out dans beaucoup de professions. Le monde a fait. Et ceux qui vivent dans l'inquiétude de leur poste qui peut se transformer, qui peut disparaître peut-être avec l'arrivée de l'intelligence artificielle pour beaucoup de professions intellectuelles. Alors le travail n'est pas une parenthèse dans nos vies. Il en est souvent le fil conducteur principal. Il rythme nos journées sans que nous le voulions. Et puis il façonne nos relations avec les gens, avec les collègues. Il nous met face à nous-mêmes, à nos limites, à notre patience, à notre persévérance, à notre découragement. Alors, des fois source d'épanouissement, parfois une lutte quotidienne, pour d'autres, une blessure profonde de ne pas avoir de travail. Et j'aimerais, et ce que nous propose Cédric Eugène, c'est, mais que nous font entendre les Écritures? Que dit Dieu au sujet du travail? Eh bien, il n'y a pas ni un discours qui ignorerait la souffrance, ni une parole qui écrase. C'est une sagesse profonde que nous donne la Bible. La Bible nous aide à comprendre l'humanité. Et quelque part, ce que je veux reprendre dans cette prédication, c'est que le travail, à l'origine, est un don de Dieu. Mais dans un monde marqué par le péché, c'est souvent un défi de survie, comme nous l'avons vu avec Hélène au Togo, en voyant tant de gens souffrir, survivre. Et pourtant, il peut sans doute devenir un chemin de solidarité, c'est l'objet du message pour ceux qui travaillent. Quel est son objet? Il peut être une façon d'être solidaires les uns envers les autres. D'abord, je commencerai donc par le travail comme don de Dieu. Revenons-en au commencement, avant le péché, avant la peur et la honte de Dieu pour l'homme. Dieu plante un jardin luxuriant, un espace de vie, d'harmonie, le jardin d'Éden, et il y place l'être humain. Et voici ce qui est dit en Genèse 2.15. Genèse 2.15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc, dès l'origine, Dieu crée l'homme en lui confiant un travail. Ce n'est pas une punition, c'est comme une vocation. La vocation de l'homme est de travailler ici pour faire quoi? Pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Ça ne naît pas de la faute de l'homme ni du mal, mais ça fait partie du projet créateur de Dieu. Cultiver et garder signifie qu'il fait, l'homme fait fructifier, il va protéger, il va transformer ce jardin, ce qui est devenu la terre, sans la surexploiter ni la détruire. C'est un honneur, une responsabilité confiée par Dieu. Dieu aurait très bien pu accomplir tout seul de s'occuper du jardin. Non, il donne une responsabilité à l'homme. Et donc, il nous a légué un monde qui n'est pas achevé, qui n'est pas là pour stagner, mais un monde appelé à s'épanouir. Et il associe l'homme et la femme à cette œuvre créatrice. La seule différence, c'est que pour l'homme, il ne part pas de rien. Comme Dieu qui est créateur et qui part de rien, l'homme, lui, part et il transforme quelque chose qui existe déjà, les plantes, les animaux, les ressources de la terre. Et il révèle par là tout un tas de potentialités de création. Et il veille aussi à préserver ce jardin de la destruction. Quelle belle vocation! Et ce n'est pas seulement une vocation qui est matérielle, c'est aussi une vocation spirituelle. Regardons ce qui est dit dans l'Exode lors de la construction du temple en Exode 31-33. On voit que c'est Dieu lui-même qui va donner et inspirer la créativité, la précision, l'intelligence du métier de ceux qui vont construire le temple. J'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie, c'est que j'ai accompagné des gens, vous ne le savez sans doute pas, qui ont créé des choses, créateurs d'entreprises. Et souvent, je leur ai dit, même s'ils ne croyaient pas en Dieu, c'est Dieu qui donne ça. Je vois des hommes et des femmes. L'esprit créateur est en l'homme, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu quelque part. Et l'homme s'accomplit dedans. Mais c'est Dieu qui donne ses dons. Lisons Exode 31, 3, 4. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. C'est Dieu qui lui-même donne les dons aux hommes pour accomplir son ouvrage, y compris son ouvrage spirituel. Et là, on peut penser à la construction du temple, la construction de l'Église. Ce n'est pas nous, ne vous inquiétez pas. Dieu donne et désigne, et il donne les dons à chacun. Ainsi, chacun reçoit, d'une manière singulière, une façon de contribuer à la vie commune de l'Église, c'est le temple, mais de l'humanité. Ça, c'est le plan de Dieu. Et même, une fois hors du jardin, Dieu a offert ses capacités, cette imagination, ce savoir-faire à l'homme. Donc, l'homme, regardez ce qu'il a fait de bien. Il a bâti des villes, il a cultivé la terre, il a transformé les savoirs, il a exploré le monde, il a fait naître la culture. C'est ainsi. Pourtant, cette vocation première, si belle, a changé et un écart douloureux s'est creusé. Le travail qui devait faire vivre devient parfois et pour beaucoup une source de souffrance. Alors j'aurais parlé du travail comme défi de survie. Et c'est bien hors de ce jardin d'Éden que se déploie maintenant le travail, dans un monde marqué par le péché. Le travail qui était voulu par Dieu comme un lieu de vie est profondément marqué par la fragilité et l'injustice. C'est ce que la Genèse nous décrit dans ses mots pleins de sagesse en Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Il nous décrit déjà punition, conséquence du péché. Conséquence du péché, mais pas le plan de Dieu. Ce texte ne condamne pas le travail. Il révèle plus combien l'harmonie originelle a été brisée. Et le travail n'est plus spontanément une source de vie. Il devient une lutte, un effort pénible, un combat pour subsister. Là où chacun devrait vivre dignement de son travail, il expose des gens à la peur du lendemain et à l'insécurité. Je ne peux pas dire combien notre voyage nous a marqués, mais combien nous avons vu des femmes et des hommes, et surtout les femmes, porter sur 6, 10 kilomètres, 40 kilos sur la tête pour nourrir, faire des allers-retours, de l'eau, on en parlera après dans le projet que nous avons à cœur. Ce travail qui éreinte, qui a vu ça dans beaucoup de pays, où malgré ce travail éreintant, les gens gagnent 1 euro par jour, qui ne suffisent pas, on l'a vu, à donner autre chose, et même le riz est un luxe. Oui, une humanité où beaucoup de gens travaillent, sans que ce travail soit rémunérateur de ce pourquoi il a été fait. Est-ce que nous avons conscience de cela? Mais la pauvreté, c'est pas justement, voilà, excusez-moi, je suis là. C'est donc une des grandes blessures de notre temps. De nombreuses femmes et hommes travaillent très durement. Et j'ai parlé des pays pauvres, mais sachez que la situation, on l'a connue ici. Alors peut-être elle évolue avec le temps. Mais combien de gens ont trimé durement dans les usines. Pensez à ceux qui étaient dans les mines de charbon, tout simplement. On connaît ça. Alors, on va dire, oui, on a plutôt cherché à alléger que de situations terribles, des contrats précaires, des jeunes qui sont diplômés, qui ne trouvent pas un emploi correct, des horaires morcelés, des gens qui travaillent debout, qui sont enchaînés pendant des CD, des contrats à durée déterminée, pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Mais où est la valeur d'un travail dans des conditions des fois difficiles? Alors le travail ne te protège plus toujours de la pauvreté, et cette parole biblique résonne en nous. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Et même, pour beaucoup, la sueur ne suffit plus à gagner le pain. Et cette situation, frères et sœurs, n'est pas normale. Nous devrions nous révolter contre cette situation. Elle ne correspond pas au projet du Créateur. Lorsque le travail appauvrit les gens au lieu de les faire vivre, la dignité humaine est atteinte. C'est pourquoi les Écritures, dès l'Ancien Testament, nous rappellent sans cesse l'exigence du salaire juste, du repos, de la protection du plus vulnérable. On peut relire tout le passage d'Ésaïe 58 qui rappelle le vrai jeûne que Dieu aime. Et j'ai juste cité Ésaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et dans beaucoup de là, on peut y voir ce qui était à l'époque l'esclavage, le joug des serviteurs qui travaillaient toute la journée. Et il y a encore de l'esclavage aujourd'hui. Et encore, nous avons vu avec Hélène beaucoup d'enfants travailler, qui n'allaient pas à l'école et qui travaillaient du matin au soir. Eh bien, ce n'est pas le plan de Dieu. Ésaïe 58 déjà nous le rappelle. Alors, comment faire du travail quelque chose de beau, si nous avons un travail, parce qu'il y a aussi cette souffrance de ne pas en avoir? Eh bien, c'est la voie qui nous est proposée ici comme chemin. Le travail peut quand même devenir un chemin de solidarité. Et cela apparaît bien dans ce verset d'Éphésiens 4, 28. Qu'est-ce qui nous est demandé? Qu'est-ce qui nous est demandé à nous qui avons eu le salut par Jésus-Christ, qui l'avons pris? Eh bien, l'apôtre Paul le redit dans ce passage, Éphésiens 4, 28. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est à la fois, ici, le travail comme un chemin de conversion, une façon de permettre à celui qui volait, peut-être pour nourrir, de ne plus voler. Donc ça nous donne ce chemin. Et aussi, ce passage, on voit l'objectif du travail, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ainsi, notre effort personnel devient aussi une ressource pour les autres. Il ne sert à rien de posséder toujours plus, mais partager un peu de nos ressources est bien sûr une façon qu'encourage et même qu'indique la parole de Dieu pour transformer notre effort, ce que nous avons gagné, mais le méritons-nous, c'est Dieu qui nous le donne par grâce, quelque chose en ressource pour les autres. Oui, c'est ça le bonheur dont la sagesse populaire parle, le bonheur de donner. Le fruit du travail n'est pas là pour être accumulé. Je pense à cette parabole, c'est ça, mais à circuler afin que chacun puisse recevoir, faire circuler, partager. Ainsi, par notre travail, si nous en avons un, nous avons l'occasion de contribuer au bien commun. Ce n'est pas juste assurer sa subsistance personnelle, mais participer à la vie collective, répondre aux besoins de la société. Et je dirais, à l'époque, c'était beaucoup marqué aux besoins aussi des premières communautés, de l'Église. On peut voir alors un lieu de partage, un lieu d'un peu de justice sociale, en produisant des richesses destinées à circuler, à redonner de la dignité à ceux qui sont dans la pauvreté, à réduire tout simplement ces inégalités. Alors le travail devient quelque chose qui est un chemin de solidarité. Même lorsqu'on n'a pas conscience, notre travail est relié à celui des autres. Le pain que nous mangeons, les soins que nous recevons, les savoirs transmis, la sécurité que nous avons au quotidien, c'est le fruit du travail d'une multitude de gestes souvent invisibles, je ne sais pas si on s'en rend compte. Nul ne vit pour lui-même, nul ne travaille pour lui seul. C'est pourquoi aucun métier n'est insignifiant. Les tâches les plus modestes, les plus discrètes, les moins reconnues participent pleinement à la vie commune. Et il me semble qu'on l'a beaucoup vécu au moment du Covid. Pour la première fois, on a applaudi les soignants. On a réalisé les soignants. Et pas les médecins, les infirmières, ceux aux proches des malades. Et combien on a parlé du deuxième rang, des éboueurs, de ceux qui nettoyaient, invisibles à la société. Ainsi, nous dépendons tous les uns des autres au travers de notre travail. Mais la dignité, l'Évangile le reconnaît aussi à ceux qui cherchent un travail. Et il y en a beaucoup. Et je suis touché par tous les jeunes qui n'ont pas de travail. Beaucoup, pour les anciennes générations, n'ont pas eu cette difficulté où il y avait le plein emploi. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont là et ils cherchent. Ils sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude de l'avenir et qui ont des contrats précaires. Non. Si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas inutile parce que vous êtes privé de travail. Vous demeurez des femmes et des hommes créés à l'image de Dieu, porteurs d'une dignité que rien, ni le chômage, ni l'attente, ni l'échec ne peut effacer. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes ni invisible, ni oublié. Pourtant, quelle souffrance pour celui qui est sans travail. Parce que quelque part, il n'est plus dans le plan créateur que Dieu lui avait confié. Et il est là, se sentant inutile pour la société. Est-ce que vous voyez ça, parce que je vois ces situations de l'inutilité? Parce que c'était le plan de Dieu que chacun soit utile à contribuer au bien de la société. Eh bien, l'Évangile reconnaît cette dignité à tous ceux qui sont dans cette galère, à tous ceux dont le salaire ne suffit pas pour sécuriser, pour payer leur famille. Et Dieu voit, vous ne manquez pas de courage, vous n'êtes pas responsable de votre situation. Dieu voit votre effort caché, la persévérance silencieuse, les sacrifices consentis pour faire vivre une famille. Et personne ne le voit, mais Dieu, il voit ce que tu fais pour ta famille, les sacrifices que tu fais. Rien de ton travail, honnête, même fragile, même épuisant, n'est perdu aux yeux de Dieu. C'est là que doit devenir un chemin de solidarité. Non une solidarité qui juge ou qui classe, mais une solidarité qui reconnaît que nous dépendons les uns des autres. Une solidarité qui refuse que certains portent seuls le poids du manque, de la peur, de l'épuisement. Et une solidarité qui commence par poser la question à l'autre que nous rencontrons, non pas « qu'as-tu produit aujourd'hui ?» mais « de quoi as-tu besoin pour ta vie ?» Dans la logique du royaume de Dieu, la dignité précède toujours la performance. La personne compte plus que le rendement. Et lorsque le travail manque ou fait souffrir, la communauté chrétienne, la communauté humaine sont appelées à être un lieu de soutien, de reconnaissance et d'espérance. En conclusion de ce message, je voulais nous sensibiliser. Je disais qu'il me touchait parce que je vois beaucoup de situations. Le travail traverse notre existence. On ne peut pas l'ignorer. Et même, ça fait partie du plan. Il peut être source de joie. Il peut être source de fatigue. Il peut être source d'accomplissement, d'épreuve et de souffrance en cas de manque. Et les Écritures ne nient aucune de ces réalités. Elles nous rappellent ceci. Le travail est un don, un défi, mais aussi ce que j'aurais appelé à faire aujourd'hui, qu'il soit un chemin d'amour, de service et d'entraide. C'est ça le rôle du sel pour le lier. Pourquoi ils ont choisi ça? C'est pour nous encourager à nous qui avons du travail, des richesses incommensurables par rapport à une partie de l'humanité qui n'en a pas, à faire circuler cela pour rétablir cette inégalité qui vient du péché. Et j'invite chacun à se revoir par rapport à ce plan de Dieu en se demandant pas « Suis-je assez performant dans mon travail ? Ai-je bien fait ce qui est à faire ?» En se demandant pas « Ai-je réussi ma vie professionnelle ?» Mais plutôt en vous posant cette question « Où dans mon travail ? Ou dans mon absence de travail aujourd'hui ?» Dieu m'appelle-t-il à faire circuler la solidarité les uns avec les autres et aider mon prochain? Que chacun entende donc cet appel du Seigneur pour nous. Travaillons non pour se définir par la performance, non pour se laisser écraser par la fatigue, mais pour servir la communauté les uns les autres, et participer ainsi à l'œuvre de Dieu. Selon ce verset que je vous laisse en méditation, en Colossiens 3, 23, qui nous ramène au plan merveilleux de ce que Dieu veut pour nous. Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Que la parole de Dieu soit louée, que Dieu soit loué. Amen.